disais, ils sont du coup tout le temps dans leur cellule, sans pouvoir aller en promenade et tout ça. Et aussi, il y a toute la question qu'on disait un peu tout à l'heure de, sur les escortes, parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans cette aile qui est gérée par les matons, c'est eux qui ont les clés. Les soignants n'ont pas de clés. Du coup, c'est les matons qui gèrent les ouvertures de portes de cet endroit qui est l'endroit de séjour où les gens dorment, quoi. Où il y a les chambres, enfin, les cellules. Ouais. Du coup, il y a cet endroit-là qui lui-même est doté de salles de soins. Mmh. Où du coup, quand les soins se font dans ces salles-là, il n'y a pas besoin d'escorte ou quoi. Enfin, il y a quand même des matons qui ouvrent les portes et machin. Et les matons restent en dehors, a priori, de la salle de soins. Et sauf que, par exemple, là, par rapport à la Pitié-Salpêtrière, j'ai lu un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2014. Ils expliquent que les portes ne ferment pas de l'intérieur. Du coup, les soignants doivent laisser la porte entrouverte parce que sinon, ils sont enfermés dedans, et du coup que les portes sont entrouvertes avec les matons dehors et qu'ils sont obligés de mettre genre des serviettes pour occulter un peu et tout, enfin voilà, pour donner une idée de la privé de comment c'est privé,
respect de la vie privée,
ouais, voilà. Et ça c'est pour quand c'est dans la zone UHSI en elle-même, et sachant qu'il y a beaucoup de soins qui vont se faire dans le reste de l'hôpital. Et du coup dans ce cas-là c'est sous escorte qui est effectué par les matons et les matones, et du coup la plupart du temps avec menottes et entraves. Du coup les entraves c'est les menottes pour les pieds, hein. Sachant qu'il y a 3 niveaux de sécurité possibles. Il y a l'escorte sans menottes ni entraves, c'est le niveau 1, le niveau 2 c'est juste les menottes, et le niveau 3 c'est les deux, quoi, menottes et entraves. Et ça, qu'est-ce qui détermine le niveau ? En tout cas, qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir un niveau 3 et du coup menottes plus entrave ? C'est si tu as un risque élevé dans 3 catégories possibles. Là, je parle encore du coup de l'exemple de la Pitié-Salpêtrière. Je sais pas si c'est comme ça partout. Du coup, à la Pitié, il y a trois critères. Et si dans un de ces critères, ils te mettent un niveau élevé, bah paf, tu passes en niveau 3 et t'as menottes plus entrave. Sachant que les trois sont évasion, risque d'évasion, risque d'agression ou autre risque.
Autre risque.
Voilà. Et du coup, ce qu'on voit dans ce rapport, c'est que pour la plupart des cas, presque tout le monde, de toute façon, a le niveau 3, du coup, menottes plus entrave. Et qu'en plus, la plupart des gens, qu'est-ce qui est coché, c'est autre risque. Voilà.
Je ne sais pas ce que c'est.
Du coup, non seulement les gens sont conduits à l'endroit où ils vont recevoir le soin ou l'examen qu'ils doivent subir avec menottes plus entrave, mais en plus une fois là-bas, il y a des matons dans les salles de soins, quoi. Globalement, même si ils sont pas censés le faire, c'est ça qui se passe. Et voilà, avec des médecins que c'est pas forcément dire
cassez-vous.
Aussi pour les menottes, il y a des soins qui sont faits en conservant les contraintes, parce que pareil, les médecins s'il y a pas besoin, ils demandent pas ce que ce soit enlevé, ou alors ils demandent et il faut qu'ils insistent parce que la sécurité avant tout, machin. Et voilà, du coup, dans quelles conditions se passent les soins. En plus, c'est le bordel parce que les portes pour sortir, pour les transferts et tout, les ouvertures de portes au sein de l'UHSI, normalement, ils sont censés ouvrir que 2 portes grand maximum à la fois. Sachant que bah il y a plein de monde et que tout le monde doit aller à ces différents soins. Enfin, ça fait que du coup les possibilités de se faire soigner sont hyper compliquées. Et voilà. Et ce qui fait aussi, c'est interdit de fumer. Enfin, il y a pas de, vu qu'il y a pas de promenade et que c'est un hôpital et qu'il y a pas le droit de fumer dans une chambre d'hôpital, et ben les personnes n'ont pas le droit de fumer. Enfin voilà, c'est tout un
des contraintes très très fortes, quoi.
Ouais. Hyper compliqué. Et en plus, ce que je voulais rajouter à ça, c'est que ça fait aussi que, du coup, je disais, il y en a 8 en France, des UHSI. Ça fait que les gens, en fait, ils sont transférés pour pouvoir être à l'UHSI, c'est-à-dire qu'ils partent, ils doivent partir de la prison, ils sont écroués, faire un nouveau placement sous écrou, du coup un nouveau protocole du greffe et de machin, de la prise d'empreinte, le bidule, le truc, la photo. enfin tout ce bordel de quand t'arrives en prison et ou de quand t'es transféré, bah là c'est pareil pour les personnes qui sont pas issues de l'établissement qui est rattaché à l'UHSI. Mmh. Et ben ils doivent refaire tout ce protocole et potentiellement se retrouver aussi loin de leurs proches et tout ça quoi, selon selon d'où ils viennent. Voilà, du coup tout cet amas de trucs fait aussi qu'il y a plein de gens qui refusent finalement, enfin qui retardent ou qui refusent le fait d'être hospitalisés parce que c'est beaucoup trop contraignant et que c'est des conditions qui sont plus dures que, enfin ça dépend de d'où, dans quelles conditions sont les gens dans leur prison de départ, mais par exemple je sais pas sur des longues peines qui sont les gens qui globalement le plus de problèmes de santé, c'est des personnes qui sont qui peuvent être en centre de détention, du coup avec quand même des conditions de détention qui ont rien à voir avec là dans comment les gens ils se retrouvent comme s'ils étaient presque à nouveau en garde à vue quoi, à se faire chier. Bon, ils ont la télé gratos, mais à part ça, à se faire chier dans une salle d'hôpital alors que si t'es là, c'est qu'en plus tu vas pas bien. Enfin, en général. Enfin, voilà, du coup, ça fait qu'il y a que plein de gens annulent leur hospitalisation au dernier moment, changent d'avis parce que c'est pas supportable, quoi, tous ces changements, tout ce durcissement des conditions de détention, quoi. Voilà un peu ce que je voulais dire sur les UHSI. Je vais être plus rapide sur les UHSA. Du coup, les UHSA, c'est l'équivalent, mais pour les soins psychiatriques. Du coup, UHSA, ça veut dire unité hospitalière spécialement aménagée. Du coup, ça a été créé par une loi de 2002. Il y en a 9 en France et pour 440 lits. Alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Les UHSI, pour rappel, c'est 8 et c'est 182 lits. Les UHSA, c'est 9 et ça fait 440 lits, du coup, dont les gens doivent être plus entassés, je ne sais pas. En tout cas, à Paris, c'est à Villejuif, à l'hôpital Paul Guiraud. Et du coup, contrairement aux UHSI, en UHSA, comme en hôpital psychiatrique classique, le consentement de la personne n'est pas requis pour être enfermé là-bas. Et sinon, c'est à peu près le même fonctionnement que l'UHSI, dans le sens que c'est les matons qui s'occupent des portes et de la sécurité et tout ça. Par contre, les durées de séjour sont vraiment plus longues, quoi. Là, j'ai par exemple en moyenne de séjour à l'UHSA de Lyon en 2012, c'était 70 jours. Alors par exemple, à l'UHSI de La Pitié en 2014, c'était 12 jours. Je vais pas trop m'étendre. Je pense que, enfin, on a déjà pas mal parlé dans Carapatage de la question des hôpitaux psy, de l'internement, de l'hospitalisation d'office, du coup, c'est-à-dire sans consentement, de la violence que c'est d'enfermer des gens, enfin, de mettre des gens à l'hôpital psychiatrique sans leur consentement et tout ça. Du coup, les UHSA, c'est pas,
c'est dans la même veine, quoi.
Voilà, ça va dans cette continuité-là, sauf que c'est des personnes qui arrivent de prison et non pas des personnes qui arrivent de l'extérieur, ce qui fait qu'il y a vraiment, je pense, beaucoup plus d'hospitalisation volontaire en UHSA. Des gens qui préfèrent aller là-bas plutôt que rester dans la prison. Voilà. Mais sinon, il y a des fonctionnements, voilà, pareil qu'en hôpital psy, il y a des chambres d'isolement qui sont des cachots, quoi. Il n'y a pas de point d'eau, y a pas, les personnes ne peuvent pas allumer ou éteindre la lumière elles-mêmes. Y a aussi le recours à la contention, la camisole physique et tout ça, sans parler évidemment de la camisole chimique qui est le lot de tous les hôpitaux psychiatriques. Enfin voilà, du coup je vais pas trop m'attarder sur l'UHSA parce que je pense aussi qu'il y aurait plein d'autres choses à en dire voilà, du coup je vais m'arrêter là pour la question des différentes structures de soins entre guillemets, vu que comme on va continuer à en parler, c'est le soin peut aussi être de la répression quand on parle de prison ou d'hôpitaux psychiatriques, mais voilà.
Moi, je voulais ajouter un petit truc par rapport aux hospitalisations. On parlait tout à l'heure du secret médical aussi en prison, mais c'est valable aussi dans les hospitalisations, comme tu disais, quand tu as des matons qui sont dans les salles d'examen, dans les salles de soins, etc. Et puis, il y a aussi pas mal de témoignages concernant les meufs quand elles ont des examens gynécologiques ou des accouchements, et qu'en fait, d'une part, soit elles sont menottées pendant leur accouchement, et puis des cas d'examen gynéco et d'accouchement où t'as des matons qui sont juste là dans la salle tranquille, alors que la prisonnière elle est en train d'accoucher, quoi. Donc voilà, juste des cas où en fait, genre le respect et la dignité du prisonnier ou de la prisonnière est totalement pas là, quoi. Voilà, ce que tu disais, ça m'a fait penser à ça, quoi.
Ouais, et moi, quand tu parlais de la question des conditions de détention quand t'es en UHSI, ça a fait vraiment ce truc de non seulement on peut grave faire en tôle, ils font grave du chantage aux soins en disant il faut absolument, enfin la carotte et le bâton, enfin faut absolument que tu tiennes, que t'aies un certain comportement pour te faire soigner, mais quand bien même t'obtiens ça dans des conditions qui sont atroces et où du coup tu te retrouves à devoir effectivement faire le choix entre être en détention avec certaines possibilités de parloir, de promenade et de que cantine. En fait si tu de cantine et puis que si tu veux te faire soigner en fait tu te retrouves dans des situations qui sont encore plus trash que celles que tu vis déjà et que du coup ça montre bien ce truc de en fait ben, qu'il n'y a absolument aucun intérêt pour l'administration pénitentiaire que les détenus prennent soin d'eux ou arrivent à se faire soigner et que du coup ça, de toute manière tu te retrouves dans des situations de toujours plus trash, enfin
ce truc que tu disais de pas pouvoir fumer, enfin c'est grave quand même, genre en fait il y a aucun espace qui est pensé pour que les prisonniers puissent fumer alors qu'en fait t'as des gens qui sont addicts à la clope et qui enfin pour qui ne pas fumer pendant 15 jours ça va être genre super dur psychologiquement machin et tout, enfin voilà, en fait tu te rends compte que c'est pensé pour la sécurité et que le bien-être des personnes à l'intérieur sera voilà et pas du tout envisagé, quoi.
Et s'il leur donne des patchs?
Ah,
ça va.
Super.
Non, et en plus, sur le truc de la clope, en vrai, c'est des conditions qui sont déjà plus stressantes, où sûrement t'as un stress lié à ta santé. En plus, t'es dans des conditions hyper stressantes, et du coup, c'est sûr que cette contrainte de la cigarette, c'est...
Ouais.
Bah voilà, on sait que c'est un enjeu de ouf, enfin que c'est déjà un moyen de pression de ouf sur les détenus en permanence, ces histoires d'addiction, notamment d'addiction à la clope, quoi. D'obtenir tes clopes et tout, c'est un moyen, un levier assez fort sur plein de gens parce que c'est quand même une substance qui est très très addictive, quoi. Ouais. Et surtout quand t'es dans des conditions de stress intense comme peut créer l'enfermement et du coup, ouais, c'est vraiment minable de pas permettre aux gens de fumer, quoi. Enfin, c'est vraiment dissuasif en tout cas pour plein de gens.
Puis en plus, comme tu t'imagines bien que quand t'es un ou une détenue et que tu veux te faire soigner et que du coup t'accèdes à la possibilité d'aller en UHSI ou je sais pas quoi, en fait t'as aucune idée de possiblement, enfin c'est sûr, t'as aucune idée de combien de temps tu vas y rester aussi parce que ça dépend vraiment pas beaucoup, ça dépend pas de toi et ça dépend des médecins et ça dépend de la lenteur à laquelle tu vas avoir accès à tel et tel examen et à tel médecin, est-ce qu'il va pouvoir te recevoir ou je sais pas quoi. Du coup, tu disais en moyenne les gens ils restent 12 jours. Mais du coup, possiblement, quand tu pars de la prison, tu sais pas. Et du coup, si t'es fumeur ou fumeuse, et qu'en fait, t'as aucune idée de combien de temps il va falloir que tu ne fumes pas, possiblement, tu te dis, bah non, en fait, je vais pas rester une semaine sans fumer. Enfin, du coup, c'est vraiment un truc effectivement.
C'est un des nombreux aspects qui fait que, genre, qui rend l'accès aux soins encore plus compliqué, quoi. On continue à parler de tout ça dans 5 minutes, mais avant ça, on va faire une petite pause musicale où on va écouter Ça ne se voit pas du tout de Anne Sylvestre.
Les enfants des chômeurs, des sans-abri, des RNistes reçoivent le meilleur de ce qui passe sur nos listes. Couverts de pieds en cap, de vêtements, des grandes marques. Fini le handicap, et bien malin qui les remarque. Ça gêne beaucoup moins, et quand ils se lavent les mains, je vous jure, on s'y tromperait, on dirait des enfants, des vrais. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Ces gens dans le métro qui nous imposent leur musique, ou ceux qui parlent trop en recherchant le pathétique. Jamais vous ne croiriez qu'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent. Ils sont bien habillés, il y en a qui sentent la lavande. Leur faire la charité, moi j'aurais peur de les vexer. Entre nous, eh bien franchement, ils sont pauvres ou ils font semblant. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Mon épicier m'a dit qu'autrefois dans le voisinage, il y avait des taudis qui déparaient le paysage. Il devait s'y passer les choses que l'on imagine. On ne pouvait laisser proliférer cette vermine. On les a remplacés par des immeubles polissés. Ce qu'on a fait des habitants qui sont relâchés depuis longtemps. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Quand ma fille a fauté, j'ai failli la mettre à la porte. Mais j'étais révoltée à la seule idée qu'elle avorte. Il y a des endroits où on peut arranger les choses. Et tout le monde croit qu'en ce moment, elle se repose. Elle a eu son bébé, il était bien un peu foncé. Mais tout de même assez mignon, ça sera mieux pour l'adoption. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Mon fils qui est très beau va bien se décider, j'espère, à reprendre le flambeau de la famille et des affaires. Il n'a pas l'air pressé de rechercher le mariage. J'ai beau lui présenter des jeunes filles de son âge, il n'y a que des garçons qui viennent le voir à la maison. Mais s'il avait des goûts pervers, je le saurais, je suis sa mère. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Je suis sollicitée par les œuvres de la paroisse. Je suis trop occupée pour éprouver la moindre angoisse. Je me lève très tôt pour attraper la première messe. Puis dans les hôpitaux, je vais secourir les détresses. Oui, j'aime mon prochain et je m'applique à faire le bien. Car j'ai un cœur très généreux, mais j'ai l'impression, c'est curieux. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout.
On est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, on parle de santé en prison. Et on va continuer cette émission en continuant à détailler un peu comment ça se passe la santé en prison, comment... J'ai pas dit la chanson peut-être.
Ouais.
On vient d'écouter... Veuillez m'excuser, je suis partie en balle. On vient d'écouter Ça ne se voit pas du tout d'Anne Sylvestre. On précise que c'était une chanson ironique hein, au cas où ça avait pas été compris par nos auditeurs et nos auditrices. Donc je disais, on va continuer à parler de comment la prison rend malade et dégrade la santé. On avait envie de parler de la situation d'un prisonnier en particulier qui, par ses témoignages et les textes qu'on va lire sur sa situation, couvre plein d'aspects dont on avait envie de parler. C'est Fabrice Borromé, qui est un prisonnier guadeloupéen qui a été... transféré, déporté selon ses termes dans une prison en France. Et donc du coup, on va lire deux textes, deux extraits de textes. Le premier, c'est un texte qui a été publié sur le blog de l'Envolée en 2017, qui raconte comment il a bloqué une douche et pour obtenir un transfert et comment l'administration pénitentiaire l'a traité suite à ça. Et le deuxième texte, on va lire trois petits extraits, c'est une interview de 2019 qui a été faite par le collectif Case Rebelle. Voilà, où ça parle aussi de sa santé et comment sa santé a été dégradée par le fait d'être en prison et d'être surtout maltraitée par l'administration pénitentiaire. Je te laisse commencer du coup, Billy.
Du coup, en 2017, le texte dit « Cette fois-ci, la directrice a utilisé les gros moyens pour le dégager. Les hérisses, avec casques, boucliers et autres armes de toutes sortes, sont arrivées et ont lancé une grenade assourdissante dans la douche. » Fabrice est au mitard pour 30 jours supplémentaires. Il n'entend plus d'une oreille. Il est très inquiet. Il est écrasé de chaleur toute la journée, avec des maux de tête violents et permanents. Le médecin refuse de l'examiner, passant juste la tête à travers les barreaux du mitard.
Voilà, donc déjà dans ce premier extrait, voilà, c'était à la centrale de Saint-Maur. On voit comment le personnel médical traite un prisonnier qui vient de se prendre une grenade assourdissante. Et on précise que suite à ça, Fabrice Borromée a perdu l'audition d'une oreille et a beaucoup tardé, voire n'a pas du tout reçu les soins adéquats. Du coup, dans l'interview qui avait été faite en 2019 par le collectif Case Rebelle, on va vous lire les questions et les réponses trois questions-réponses de l'interview, et vous pourrez retrouver la suite de cette interview qui est grave intéressante et que je recommande sur notre site. On va mettre le lien.
Juste avant de lire la première question, ça parle du fait qu'il est à l'isolement depuis 7 ans et on n'en a pas parlé là jusqu'ici. Peut-être il faut dire quand même un mot là-dessus. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que s'il est à l'isolement, c'est aussi lié depuis le début à ce qu'il met en place pour essayer d'être retransféré vers la Guadeloupe, et notamment une prise d'otage de Maton.
Ouais.
Et du coup, il me semble, peut-être que si je dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'il est placé à l'isolement depuis des années et des années. Mmh. Ouais, c'était juste pour recontextualiser un peu la première.
Et qu'il est particulièrement surveillé et que voilà, l'administration pénitentiaire l'a pas du tout à la bonne. Dans 2 semaines, on va faire une émission sur les prisons d'outre-mer, et du coup, probablement que la situation de Fabrice Borromée on va en reparler à cette occasion-là.
Quel impact cet isolement contraint a-t-il sur ton quotidien, sur ton moral ? L'isolement depuis plus de 7 ans. Je suis perpétuellement en stress intense. J'ai un ulcère grave, je vomis du sang et j'ai la vue qui baisse beaucoup. Et beaucoup sont devenus fous après bien moins d'années d'isolement.
Peux-tu nous expliquer quelles sont tes conditions de détention actuelles ? Quel droit de visite ? Quel type de harcèlement subis-tu au quotidien ? Mes conditions de détention sont les casquets et les menottes par une trappe comme un chien. Les repas, je suis menottée pour les prendre et même pour voir le médecin et la psychologue. Je dois être menottée en audience et sinon, je pars le médecin par la trappe. Au sujet des harcèlements, les casquets me disent par la trappe lors des repas « mets la patte » pour les menottes et rigolent.
Tu as été et tu es victime de défauts de soins. Est-ce que tu peux nous parler de ton état de santé actuel ? Des examens qui te sont refusés et aussi de la manière dont tu as été traité après l'attaque à la grenade de désencerclement à Saint-Maur. Le médecin qui m'a fait une fibroscopie au mois de juin pour mon ulcère a demandé il y a plus de 2 mois que je refasse une afin d'écarter un cancer. C'est ce qu'il a dit à la prison. J'attends toujours. J'attends toujours aussi l'IRM pour mon cerveau pour voir les dommages subis par les 2 grenades à Saint-Maur il y a 2 ans. Et au sujet de l'attaque des 2 grenades, on m'a placée au cachot pendant 35 jours, sans voir un médecin, et ni pouvoir même appeler mon avocat et ma famille. On m'a même coupé l'eau dans le cachot pendant 3 jours, et pourtant je saignais beaucoup de l'oreille gauche. Et je n'ai pas pu non plus avoir de certificat médical par un médecin pour pouvoir porter plainte.
Bah du coup là on voit même par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure qu'en fait il y a le cas d'un médecin qui demande à ce qu'il ait certains examens et certains soins et que c'est jamais mis en place par la prison et que c'est jamais permis par la prison quoi. Et on a aussi comme dans d'autres cas en fait la prison et l'administration pénitentiaire qui se rend coupable de non-assistance à personne en danger, ce qui est aussi le cas lors des incendies de cellules, lors de malaise cardiaque, etc., où en fait les matons vont être très longs à intervenir vont en fait augmenter les possibilités que les gens aient des conséquences très graves et en meurent. Et le deuxième texte qu'on voulait lire à ce sujet, enfin le deuxième groupe de textes qu'on voulait lire à ce sujet, c'est concernant un incendie de cellule qui a eu lieu en 2014. Et c'est une lettre d'Idiard de la maison d'arrêt des femmes de Fresnes qui date de mars 2014. C'est la nouvelle année qui nous a apporté le pire des faits à la MAF de Fresnes. Le 9 janvier, une femme a mis le feu à sa cellule. Mis à part le manque d'informations et le retard dans l'évacuation des détenus, malheureusement habituel dans ces situations, il faut absolument dénoncer l'attitude et les décisions suivantes de la prison de Fresnes. Cette femme, après un cri à l'aide comme celui-là, a été placée seule en cellule. Cellule théoriquement particulièrement surveillée, entre guillemets. Trois jours après, le 12 janvier 2014, cette femme a été retrouvée morte dans sa cellule. Natacha, tuée par le système pénitentiaire. Nous, les détenus de la MAF, nous avons fait un blocage après la promenade du dimanche 19 et une minute de silence pour dénoncer la mort de Natacha et en hommage. D'ailleurs, nous avons écrit une carte pour embrasser et soutenir ses proches. Mais la direction a refusé de nous fournir l'adresse de sa famille. Impossible de leur envoyer notre message de condoléances. Je profite donc de cette lettre pour les embrasser très fort et leur dire que les femmes de Fresnes les accompagnent dans leur douleur. Cassons les prisons, une accolade révolutionnaire, Itziar. Voilà un peu pour les textes et les témoignages qu'on avait envie de lire. Cette dernière lettre, elle est issue du livre dont Gomme a parlé tout à l'heure, La peine de mort n'a jamais été abolie, dit et écrit de prison, choisi par l'envolé, aux éditions Les Bouts de la Ville, qu'on vous conseille de vous procurer. Peut-être on peut revenir sur les cellules anti-suicide, cellules de surveillance dont parlait Thiard dans sa lettre, qui sont aussi... beaucoup utilisé comme technique de répression, etc.
Ouais, globalement, je pense les mesures anti-suicide, on peut en parler sur comment, en fait, elles sont utilisées plus à des fins répressives qu'à des fins vraiment de porter assistance ou quoi. Par exemple... Une des mesures anti-suicide, ça va être le check à l'œilleton une fois par heure toutes les nuits. Et c'est d'ailleurs la mesure qui est appliquée à toutes les personnes qui sont arrivantes, du coup qui sont dans les quartiers arrivants. C'est toute la nuit, chaque heure, il y a les matons qui viennent allumer la lumière, regarder à l'œilleton. Et si la personne n'est pas... s'il n'y a pas la tête qui est visible ou quoi, taper, éventuellement réveiller la personne s'ils ont un doute et tout ça... Du coup, on imagine ce que ça fait sur le sommeil et le moral d'être épié comme ça pendant toute la nuit, d'avoir la lumière qui s'allume toutes les heures et d'être observé une fois par heure, voilà. Et sachant que ça, c'est des mesures pour les personnes qui sont déclarées comme à tendance suicidaire, entre guillemets. C'est des mesures qui peuvent leur être appliquées pendant toute leur détention, en fait. Et du coup, on voit comment c'est... une hypocrisie et comment en fait c'est utilisé pour surveiller les gens, mais quand il y a vraiment des problèmes et quand les gens justement tapent, quand voilà, quelqu'un a besoin d'aide dans une cellule, comment il n'y a jamais personne qui réplique, ou alors que ça prend du temps et aussi et voilà, et c'est aussi les lourdeurs bureaucratiques dont on parlait un peu, c'est que c'est les protocoles, la nuit il n'y a pas de les matons qui font les rondes, ils n'ont pas les clés des cellules.
Donc ça prend plus de temps.
S'il y a un problème, il faut aller chercher le gradé qui n'est pas en... Enfin, personne n'est dans les ailes de toute manière. Et du coup, ça prend du temps. Et puis, ils ne sont pas forcément pressés. Puis, ils sont en train de jouer aux cartes. Éventuellement, ils ont autre chose à foutre. Enfin, que du coup, quand il y a un vrai problème, personne ne se pointe. Mais par contre, pour casser les pieds toute la nuit, à réveiller les gens, il y a du monde. Et du coup, ça, c'est un peu pareil sur les cellules. C'est un peu pareil. En tout cas, il y a une autre infrastructure concernant la prévention suicide, qui sont les cellules de protection d'urgence, qui sont donc des cellules complètement sécurisées, avec la télé qui est dans... tout le mobilier qui est soit protégé par du plexi, tous les bords qui sont arrondis, pour qu'il n'y ait rien qui puisse être utilisé contre soi pour se mutiler ou quoi. Quand les gens sont dedans, ils sont dans un espèce de pyjama qui se déchire et tout. Ils n'ont aucun objet personnel. Et du coup, ces cellules de protection d'urgence qui sont censées être prévues pour éviter des suicides, elles sont en permanence utilisées pour...
De manière répressive.
De manière répressive, comme un espèce de mitard bis. Et plein de fois, sur des histoires d'agression de matons, quand on lit le dégueulasse Facebook de FO pénitentiaire... et ben plein de fois ils parlent d'intervention de gens qui n'ont pas l'air du tout de vouloir se suicider, qui sont des gens qui agressent des matons, ce qui est très différent d'une tentative de suicide. Du coup ils les placent en CP, en cellule de protection d'urgence. Parce que je sais pas si le mitard est plein par exemple, enfin voilà, ça leur fait un petit mitard bis et c'est censé être un truc pour le bien des personnes et en fait c'est complètement répressif et je pense que c'est un peu que ça s'applique un peu à tout ce qu'ils mettent, enfin plein de choses qu'ils mettent en place soi-disant pour le bien des personnes, pour la protection des personnes, qui sont en fait purement à vocation de contrôle et de répression.
Il y a peut-être un truc dont on n'a pas trop parlé depuis le début de l'émission, c'est concernant la médicamentation ou la médication. Enfin, les médicaments, quoi, l'utilisation des médicaments qui va être très forte et ou abusive en prison, que ce soit les services médicaux qui potentiellement distribuent facilement des médicaments, ou que ce soit en fait une médicamentation des prisonniers en fait qui permet de les contrôler, comme en fait le font d'autres substances, mais là ça va passer par des substances données par les médecins, quoi.
Et du coup le médicament n'a plus du tout vocation à soigner,
mais à calmer, à
juguler des velléités de se révolter ou de ou éventuellement de suicider ou d'être dans le conflit ou de je sais pas quoi. Enfin, c'est un outil de répression qui fait que ça permet de calmer les gens et que les gens soient cachetonnés, et que du coup il y a quand même énormément, je connais pas les chiffres, mais il y a énormément de détenus qui n'ont même pas de prescription médicale et qui sont cachetonnés et qui prennent et qui sont censés prendre soit des somnifères, soit des anxios, soit des antidépresseurs, et qu'il y a tout un tas de types de médicaments comme ça qui sont donnés et que il y a pas vraiment, il y a très peu, c'est difficile des fois pour les détenus eux-mêmes d'avoir un papier qui atteste qu'ils sont sous ce médoc là parce que juste on leur donne sans même qu'ils aient vu un médecin avant, et que du coup ça n'a rien à voir avec du soin, c'est complètement du contrôle des personnes,
des prisonniers. Je suis encore avant qu'on réécoute encore une petite musique pour se reposer les oreilles. Il y avait encore quelque chose dont on n'a pas parlé. Enfin, je l'ai rapidement évoqué en début d'émission. C'est la suspension de peine pour raison médicale. Donc c'est une mesure qui existe dans la loi, qui est censée être utilisée quand des prisonniers sont très malades et du coup que leur peine est suspendue parce qu'en fait leur état de santé est incompatible avec celui de la détention. En fait, il faut savoir que c'est une mesure qui a fait grand bruit quand elle a été adoptée, mais qui en fait est très peu appliquée, et qu'en fait il faut vraiment être quasiment à l'article de la mort pour que ce soit accepté par les juges, ce qui fait qu'en fait il y a des gens très très malades, voire qui peuvent plus se déplacer, etc., mais qui continuent à être incarcérés parce qu'en fait ça pose problème à personne à l'intérieur qu'ils soient en prison. Et je renvoie aussi vers le livre de L'Envolée sur la peine de mort n'a jamais été abolie, qui évoque ce sujet. Dans la prochaine partie qu'on va écouter après la musique de Billy, on va évoquer, elle va lire la lettre d'un prisonnier qui s'appelle Philippe Lalouel, et qui est un prisonnier longue peine, qui est en prison depuis super longtemps et tout, et il a aussi la particularité d'avoir le VIH, d'être séropositif, et du coup ça c'est aussi quelque chose là qui est important à évoquer quand on parle de la santé en prison. C'est des maladies qui ont besoin de traitements très spécifiques, d'hospitalisation courante, etc., qui sont très mal prises en compte par la prison. Et en plus, on disait tout à l'heure que tu veux redonner un peu les chiffres sur le VIH et les hépatites.
Ouais, que sur que des personnes infectées au VIH et au VHC, du coup le virus de l'hépatite C, ils sont statistiquement 6 fois plus nombreuses en prison que dans le reste de la population, quoi. Enfin, que aussi, c'est un point un peu qu'on a pas. Enfin, on l'a un peu dit comment la prison rendait malade aussi, mais que du coup, en fait, il y a tout un tas de pathologies, on va dire, ou de maladies qui sont beaucoup plus présentes en prison. Enfin, qui concernent beaucoup plus un pourcentage beaucoup plus élevé de gens en prison que dans le reste de la population, quoi.
Du fait que c'est des personnes qui se retrouvent en taule par ailleurs parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles ont galéré, etc. Et que du coup, elles sont plus sujettes à certaines maladies, quoi. Voilà.
En plus des maladies que crée la prison.
Ouais, ouais, que crée la prison. Mais du coup, bah, particulièrement pour les personnes comme Philippe Allouel qui ont le VIH, la prison n'est particulièrement pas adaptée parce qu'il faut souvent être hospitalisé pour tout un tas de soins. Il faut un suivi voilà, très précis, etc. Et que du coup, la prison rend difficile et du coup, ça fait que ça dégrade l'état de santé. Mais du coup, ce sera plus expliqué dans sa lettre qu'on va lire après la musique. Là, on va écouter Tout cassé de Rock et Dudu. C'est comme ça se dit.
Oui.
Cherche pas la mort dans le papier. Y aura jamais assez. Y a trop de sang sur leur billet. Moi, je leur laisse. Faut ça contrôle, ça encaisse. On n'a pas rat encore, on a même graillé la laisse. Et nos enterres, ça nous blesse. Pendant que nos potos dorment dehors, eux, ils comptent les espèces. Je joue gros bluff, je fais du cinéma. J'suis pas un guerrier, j'suis pas Xena. Pillé, vanish comme un cancre là. Fight pas comme si j'étais sûr de moi. Dehors, c'est de mirage, et moi j'rage beaucoup. On grimpe pas les étages, gros gros gros. Dehors, c'est que carnage, à quoi ils jouent. On encaisse que les dommages, ils sont tout tout. Dehors, c'est de mirage, et moi j'rage beaucoup. Que carnage, à quoi ils jouent.
Ouais, tout cassé.
J'ai tout cassé, ouais, ouais. Peut-être que je retrouverai l'envie. Tout cassé, ouais, ouais. Une bonne raison de sortir du lit. Tout cassé, hein. Brûler la prison, un peu de poésie. J'ai tout cassé, ouais, ouais. Oh là là, là 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 là.
C'est pas que l'hiver, mais je vois plus le soleil. J'ai la même gueule qu'hier, je crois que j'ai besoin de sommeil. J'espère que mes murs ont pas d'oreilles, qui m'entendent sans autotune. Et c'est pire quand je fais
allez, oh.
Et contre le temps, ça me met mal à l'aise. On sait qui bosse, qui ramasse, c'est comme à l'envers. Si de bon gueule, ils entendent les parenthèses. Mais on se laisse pas faire. Et nous on aime quand ça zone, ils pensent qu'à balayer. Y'a tout leur place dans les urnes, moi j'y vois pas d'alliés. Serré dans le trône, tout sur le damier. Y'a plus d'hasard dans le dos, me demande pas de parier. Et là j'entends la 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 devant la télé. La 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 la. J'écoute plus rien, j'fais des la la.
Retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, on parle de santé en prison. On continue avec Billy qui va nous faire un petit point sur le Covid en prison et on va un peu revenir sur tout ça. Et du coup, là, avant l'interruption, on parlait de Philippe Lallouel et du coup, tu vas nous lire une de ses lettres. Juste avant que je te donne la parole, j'ai encore oublié de dire la musique qui était cool. C'était Rock et Dudu, Tout cassé. Voilà, on écoute Philippe Lallouel du coup.
Alors... Lettre de Philippe, Maison Centrale de Lannemezan, 30 mai 2020. Nous venons vous dire, avec ma femme, que nous sommes solidaires des détenus, et en particulier ceux et celles qui ont des problèmes de santé, tout comme moi. Aujourd'hui, ce Covid-19 nous met, nous prisonniers et prisonnières malades, particulièrement en danger. Face à cet attentat gouvernemental, nous demandons des suspensions de peine qui sont toujours refusées. À croire que cette loi de suspension de peine pour raison médicale n'existe pas. En 34 ans, j'en ai vu des prisonniers partir à l'hosto la veille de crever. et j'en ai vu des épidémies ravager les prisons. À cause du Covid-19, je suis, comme d'autres, dans l'impossibilité aujourd'hui de faire mes contrôles et bilans à l'hôpital, car après chaque sortie, chaque examen, je devrais passer 14 jours en isolement dans une cellule du quartier arrivant. Autant dire que j'y passerai ma vie. Avec cette logique absurde, il faudrait mettre tout le monde au quartier arrivant en permanence, puisque nous sommes tous les jours en contact avec les surveillants qui rentrent et sortent tous les jours de la centrale. Pour ma part, je suis atteinte du VIH depuis 34 ans suite à une transfusion de sang contaminée après avoir été blessée par balle par la police dans les années 80. Mon parcours carcéral a été catastrophique à cause du VIH. Apprenant ma contamination en prison, je me suis évadée 2 fois pour ne pas crever en prison et j'ai repris des années. Cela m'a coûté 34 ans de vie. Je me suis évadée pour ne pas crever en tôle. Ça ne plaît pas aux juges et aux juges d'application des peines que je dise cela. Ils disent que je me compte en victime, entre guillemets. J'assume mes responsabilités, bien sûr. Depuis 34 ans, je n'ai connu la liberté que quelques mois pour cela. Mais on ne peut pas balayer la maladie d'un revers de main, ni balayer les raisons de cette maladie. Un scandale sanitaire d'État qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui a fait des milliers de victimes. Personne ne peut l'affirmer, mais ma vie aurait sans doute pris un autre chemin si l'on ne m'avait pas mis dans les veines un virus. À ce titre, oui, je suis une victime de l'État. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas voulu l'entendre. Tant que je me tiens debout, tant que je répète que j'ai été contaminée et que mon parcours carcéral est lié à ça, c'est que je ne suis pas prêt à sortir, que c'est « trop tôt », entre guillemets. Mais à force d'être trop tôt pour eux, cela finira par être trop tard pour moi. Victime enfermée du VIH, je ne veux pas être une victime enfermée du Covid-19. J'ai passé ma vie en prison, en partie, à cause d'un virus. Je me suis évadée pour qu'il ne me tue pas en prison. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'un autre virus me tue en prison. Pas question que je parte comme ça après 34 ans. Si c'était le cas, la justice et la paix emporteraient la responsabilité et devraient en assumer les conséquences. Je suis conditionnable, ma compagne m'attend, mes amis m'attendent pour que nous vivions quelques années communes de liberté. Alors qu'on me laisse sortir et vivre un peu. Sur ces quelques lignes, nous vous souhaitons force, courage et détermination. La loi, c'est eux. La loi, c'est moi. Philippe Lalouel. Alors, je voulais vous lire cette lettre parce que je pense que ça fait une bonne introduction. Ou en tout cas, c'est assez clair comment Philippe raconte à quel point c'est une galère innommable de se faire soigner quand on est en tôle en temps normal et comment une épidémie comme le Covid-19 vient
empirer les choses.
Voilà, empire de ouf les choses et fait qu'il y a des personnes qui se retrouvent encore plus dans la merde et notamment des personnes comme lui qui ont le VIH et qui ont besoin de quoi de soins hyper réguliers. Du coup là ce qui se dit à chaque fois que tu sors t'es obligé de faire à chaque fois que tu sors pour faire des examens médicaux ou pour faire un suivi quand tu reviens t'es obligé de faire une quatorzaine donc on imagine à l'isolement il dit du coup lui parce que du coup ça se passe à l'isolement dans la tôle où il est à Lannemezan du coup on imagine que effectivement tu passes ta vie à l'isolement du coup sans tes biens personnels sans toutes tes affaires
ton personnelles. Confort tout ça ouais.
Ce qui est encore un effet encore plus dissuasif par rapport à tout ce qu'on disait déjà qui peut être dissuasif d'aller se faire soigner enfin de se faire hospitaliser quand t'es incarcéré
ouais.
Ben là, avec le Covid et surtout là c'est pas tant l'épidémie mais plus sa gestion par l'État et comment il l'a géré dans les prisons
ouais.
Qui fait que ça avait l'air encore plus dissuasif de décider d'aller partir à l'hôpital alors que tu savais qu'en plus de ton séjour à l'hôpital, pas forcément facile, t'allais te taper la quatorzaine en rentrant. Ouais.
Peut-être tu peux donner un exemple juste pour que ce soit concret. En fait, quand t'as le VIH depuis de nombreuses années, t'as besoin d'injections qui s'appellent du Newfil pour en fait que ton corps il ait genre un aspect à peu près normal entre guillemets. Sinon tes joues elles se creusent, tes membres ils se creusent, etc. Et t'as l'air très malade et que si t'as pas ces injections là régulièrement, bah en fait. Voilà, ta santé se dégrade et t'as un aspect physique qui est de plus en plus dégradé, quoi. Donc là, on dit genre des soins, plein de soins depuis tout à l'heure, mais par exemple, ça, c'est un exemple de trucs concrets dont t'as besoin. Et par exemple, dans le cas de Philippe, dont il avait besoin de sortir pour avoir ces injections-là, quoi.
Mais du coup, il y a eu un certain nombre de mesures avec le Covid-19. Et du coup, alors c'est des choses dont un certain nombre de mesures dont je vais vous parler qui n'ont pas directement lien avec le soin en lui-même ou les personnes malades en tôle, mais qui du coup ont un lien, enfin ont eu un impact sur la santé des personnes, qu'elles soient physiques ou psychiques, et qui sont surtout, moi en faisant des recherches, j'ai surtout retrouvé tout un tas de mesures liées au Covid-19 qui du coup sont complètement incohérentes avec la question de prendre soin ou du coup de faire attention à la santé des prisonniers et prisonnières, et du coup tout un tas de mesures qui vont dans le sens dont on parlait depuis le début, qu'en fait ce qui importe c'est la sécurité, et ce qui importe et ce n'a jamais été le soin et la santé des prisonniers et prisonnières. Et notamment il y a eu la suppression des parloirs en France au premier confinement pour éviter le contact physique avec des personnes extérieures, et ça c'est une des choses qui a lancé tout un tas de révoltes en France dans plein de prisons dont on a déjà parlé plusieurs fois à Carapatage, parce que du coup les parloirs étaient interdits, mais par ailleurs les matons ont toujours pu aller et venir comme bon leur semblait dans les prisons, et par contre aussi les cellules restaient surpeuplées. Du coup en maison d'arrêt en France les cellules elles sont peuplées de 2 à 7 personnes selon les maisons d'arrêt. Du coup en termes sanitaires c'était complètement incohérent avec le fait de respecter des gestes barrières par exemple. De la même manière les dépôts de linge ils ont été interdits alors de manière complètement incohérente aussi du fait parce que il y a pas de machine à laver en tôle, du coup les gens pouvaient pas laver leur linge à 60 degrés, c'est du lavage à la main. Et juste l'excuse c'était de pas faire entrer des choses de l'extérieur vers l'intérieur, soi-disant parce que ça risquait de mettre en danger les personnes et de transmettre le virus, mais de fait les personnes à l'extérieur qu'est-ce qu'elles font quand quand un prisonnier ou une prisonnière leur donne du linge, lavent leur linge à 60 degrés. Du coup ça peut permettre d'une certaine manière de limiter les risques. Il y a eu aussi pendant tout un temps un refus de la part de l'AP de distribuer des masques aux prisonniers et prisonnières à l'intérieur des tôles, et ça a mis quand même beaucoup de temps. Du coup le début du premier confinement c'est mars 2020, le masque est devenu obligatoire à l'intérieur dans les zones d'alerte renforcée entre guillemets, du coup dans certaines zones pas dans toutes, à partir d'octobre 2020. Du coup il y a toute une période où les prisonniers et prisonnières n'avaient pas le droit de porter de masque, et par contre ils en fabriquaient. Ça, on en a entendu parler, on en a parlé ici aussi. Ils en fabriquaient, mais pas pour eux. Et par contre, les matons, eux, ils portaient des masques, des gants. Aussi, il y a eu l'interdiction du gel hydroalcoolique. Parce que le gel hydroalcoolique, c'est de l'alcool.
Waouh!
Comme l'alcool est interdit en prison, bon, tout un moment, ça a fait scandale et ça a fini par être. Ça a fini par apparaître quand même dans les prisons, le gel hydroalcoolique. Mais du coup, pendant tout un temps, les détenus n'avaient pas le droit de porter des masques, d'utiliser des gants et d'utiliser du gel hydroalcoolique. Aussi, quand les parloirs sont redevenus possibles, après le premier confinement et tout ça, il y a eu les parloirs avec des plexiglas qui ont été beaucoup critiqués évidemment par les détenus et leurs familles, où c'était plus possible de se toucher. C'était vraiment comme des parloirs hygiaphones. Les parloirs hygiaphones, c'est des parloirs qui en général sont utilisés comme des punitions, c'est-à-dire que c'est si s'est passé quelque chose pendant tes parloirs, si t'as été pris en train de transmettre quelque chose à un détenu, on va te mettre un parloir hygiaphone parce que ça coupe complètement l'intimité, c'est hyper froid
ça empêche de se toucher.
Ça empêche de se toucher, tout ça. Et du coup, là, les parloirs sont tous devenus des parloirs plexiglas. Et du coup, il y a beaucoup de détenus qui se sont plaints, évidemment, pendant des mois. Parce que d'un côté, ils avaient des parloirs hygiaphones avec leurs proches qui venaient de l'extérieur, soi-disant pour éviter les contacts avec l'extérieur. Et en même temps, ils avaient des entretiens avec. Ils voyaient les matons encore tous les jours qui rentraient et sortaient. Et ils avaient de l'entretien avec les SPIP et les travailleurs sociaux et les visiteurs de prison sans plexiglas. Et du coup, il y a eu des pas mal de...
Oui, c'est de la répression déguisée sous... sous la santé, enfin, sous prétexte sanitaire, quoi.
Le but, c'était juste de mettre la pression sur les familles et les détenus, mais par contre, effectivement, un point de vue sanitaire, ça n'avait absolument aucune logique. Aussi, il y a eu toute cette question des quatorzaines dont je parlais tout à l'heure et tout ça, ça s'est joué aussi autour des unités de vie familiale qui sont des petits appartements au sein duquel de la prison où les détenus peuvent voir leurs proches et que ça peut durer entre 6 à 72 heures selon le temps que ça fait que ton proche vient te voir. Et par exemple, là aussi, ça a été beaucoup critiqué comment ça s'est repassé quand elles ont été rouvertes parce que bah du coup la détenue qui va en unité familiale quand elle revient de son UVF et elle fait une quatorzaine encore aussi parce que elle a été en contact pendant plusieurs heures avec une personne de l'extérieur, du coup ça refait passer 14 jours à l'isolement alors que tu viens d'une UVF. Et aussi c'était compliqué parce que les enfants, il faut faire un test PCR pour entrer dans une UVF, il faut avoir un test du coup PCR négatif, sauf que les enfants peuvent pas faire de test PCR et du coup ça empêchait les enfants d'aller voir leurs proches en UVF, et que ça a été pas mal dénoncé aussi. Et de fait c'était au bon vouloir des directeurs et directrices de prison parce que en vrai les enfants peuvent faire des tests salivaires. Et je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, apparemment, c'était possible dans certaines prisons que les enfants, en arrivant, ils fassent un test salivaire qui voulait dire... Enfin, j'imagine qu'il n'est pas du tout aussi précis et fiable qu'un test PCR, mais en tout cas, c'était possible. Et il y a des directeurs et des directrices de prison qui refusaient que les enfants rentrent, même en ayant fait un test salivaire. Voilà, ça c'est les différentes mesures qui ont été mises et
peut-être tu l'as déjà dit mais sur la 14e, il y avait aussi la question des permissions que quand
oui,
tu rentres.
Non, je l'ai pas dit, ouais, effectivement.
Que ça s'applique aussi à ça évidemment, enfin là, dans la logique qu'on est en train d'écrire qui est pas qui nous semble plutôt illogique mais ouais. Qui en tout cas est celle de l'administration pénitentiaire, bah du coup pour des permissions c'est pareil, il y avait ce truc de bah quand tu rentres de permission 14e, voilà, pour tous ces petits trucs un peu plus sympas que tu peux avoir quand tu es en détention, bah il y avait espèce de contrainte de bah ouais mais si tu le fais après tu te retrouves
en
14e à pouvoir voir personne, à pas pouvoir aller en promenade avec tes co-détenus habituels, enfin tout ça.
Et du coup voilà, d'après ce que j'ai compris et dans les recherches que j'ai faites, les détenus doivent avoir un pass sanitaire pour aller à l'hôpital du coup, et dans le cadre d'une urgence ou pour un suivi médical, et que du coup ça peut être un test antigénique négatif pour un rendez-vous à l'hôpital. Mais ça doit être un PCR si c'est pour une opération ou une utilisation plus longue durée. Mais du coup, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans les faits, parce que je n'ai pas trouvé d'informations récentes là-dessus. Tout ce que j'ai trouvé, ça date d'il y a déjà plusieurs mois. Mais on imagine que c'est encore plus compliqué qu'avant, parce qu'il faut faire des demandes à l'écrit, il faut que le médecin du service... le médecin qui est dans la prison, il prévoit de te faire un test avant que tu ailles à ton rendez-vous. Déjà qu'on te prévient la veille pour le lendemain que tu as un rendez-vous médical pour éviter ce que tu disais, des questions de transfert et du coup de tentative d'évasion et tout ça. On imagine le bordel que ça doit être à l'intérieur de la tôle de devoir faire ces tests-là. Surtout que j'ai l'impression que quand bien même il y a une campagne de vaccination des détenus assez importante, enfin assez importante, non, elle a été lancée en janvier 2021 et du coup ils ont lancé les vaccinations. De fait, la population carcérale est beaucoup moins vaccinée que la population à l'extérieur. Et du coup, on imagine la galère que ça doit être de devoir prévoir, en plus de batailler pour se faire soigner, en plus de prévoir d'avoir à faire des tests en amont. Parce que du coup, il n'y a aucun aménagement par rapport au fait d'être tolard ou tolarde, quoi. C'est le même régime que pour les gens à l'extérieur. Il faut que tu fasses un test pour rentrer dans un hôpital. Ce qui est quand même particulièrement compliqué quand on est en tôle. Mais du coup, j'ai trouvé en cherchant sur ces questions de vaccination où en étaient les prisons françaises et comment ça se passait. J'ai trouvé... une chose assez hallucinante, qu'en août dernier, du coup en août 2021, il y a un document qui a circulé dans deux prisons, en Guadeloupe, à la prison de Bemao et à la maison d'arrêt de Sarreguemines en Moselle, un document qui incitait les détenus à se faire vacciner en échange de remise de peine.
Waouh.
C'était vraiment...
Hallucinant.
Voilà.
Ouais.
hallucinant de chantage.
Ouais, je sais pas, chantage au soin, on est encore dedans là.
Et du coup, ça a fait des vagues, hein, parce que c'est sorti très très vite dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et du coup, ça, effectivement, il y a plein de détenus qui ont pris ça pour du chantage. Et du coup, la diffusion de ces documents a été interrompue. Et le ministère a évoqué une maladresse de la part de la paix dans ces deux prisons. Mais ça m'a semblé assez, assez fou de lire ça, comment ils pouvaient...
Mais c'est, quand on réfléchit, c'est logique avec le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. En fait, c'est ce genre de truc. Ils font ça tous les jours avec d'autres trucs, mais comme là, c'est sur la vaccination, bah, ça sort dans les médias et on s'en rend compte, quoi. Mais.
Oui, et puis là, voilà. Ils écrivent carrément un document officiel qu'ils transmettent à leurs détenus, du coup, ça.
Ouais.
En tout cas, la procédure pour se faire vacciner, elle peut être très longue. Et si un ou une détenue souhaite se faire vacciner, elle doit faire une demande écrite auprès de l'unité sanitaire de la prison. Du coup, toujours cette question de l'écrit, du français, de savoir écrire et de le faire dans les bons termes. Et ça l'inscrit sur une liste d'attente. Alors, par exemple, à la maison d'arrêt de Nice, il faut attendre d'avoir une liste de 7 patients à votre commandant flacon. Et à Nanterre, ils prévoient une liste de 10 patients pour un flacon. Du coup, ça veut dire qu'il y a des prisons où, en fait, les détenus, même s'ils veulent se faire vacciner, ils attendent. Ouais. Ils peuvent pas, ou ils attendent que ce soit assez... que la liste d'attente soit assez remplie. Du coup, voilà, c'est à peu près toutes les mesures dont j'ai entendu parler par rapport au Covid. Et
comment ça a compliqué la vie des prisonniers, notamment dans leur possibilité de se faire soigner, quoi.
Ouais, tout à fait. Et comme en réalité, il y a beaucoup de choses que on ne sait pas encore ou que j'ai pas encore.
Ça, c'est les infos qui sont sorties, quoi.
C'est ça. Il y a déjà quelques mois, et du coup, c'est sûr que actuellement, par exemple, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Et voilà, on continue à se renseigner, mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des informations.
S'il y a des personnes qui sont à l'intérieur qui nous écoutent ou des personnes qui sont proches de prisonniers qui veulent nous écrire ou nous envoyer des messages pour nous donner des infos sur comment ça se passe à l'intérieur, n'hésitez pas. Donc c'est toutes les coordonnées que j'ai redonnées, et l'adresse postale c'est Carapatage, 4 Villa Stendhal, 75020 Paris. Je crois qu'on est un peu vers la fin de l'émission. On a dépassé parce qu'on avait beaucoup de choses à dire sur cette thématique de la santé en prison. On espère que c'était pas trop long et que c'était intéressant. Et on se retrouve dans 15 jours, le 3 novembre, me semble-t-il, pour une émission sur les prisons en Outre-mer. Pour finir, on écoute Maison d'arrêt de Ornella Frappe en featuring avec Maës. Courage à ceux qui sont à l'intérieur, force à vous.
Et crève la tôle.
Crève la tôle, ça c'est clair.
Courage à tout le monde.
À bientôt. Ciao, bonne soirée.
Cherche pas sur ta beuh, elle est pas illégale. Je t'envoie mon petit rêve qui te ravitaille. Kilo de C, passe par Honduras. Est-ce que tu sais ce qu'on a enduré? Si ça déraille, faudra qu'on s'y fasse. Je crois que c'est le Gilera qui donne envie de tirer. Des milliers de feux pour une seule étoile. Pile point et rifle, la daronne est pâle. Je connais bien ma rue, je la prends en phare éteint. La huisse, on le verra plus une fois qu'il sera repeint. Pile comme une liasse, j'allume mes mains.
savant, les roues comme Franck Lucas. J'fume le trois fois filtré, j'adoucis ma peine. J'ai la cala, j'ai la pelle, j'ai des labos et la belle. Trop trop dans le bas, j'ai fini mes notes, j'enchaîne en plein printemps, hiver, été. Troisième étage, j'suis cagoulé planté. J'crois que tout mon check s'est monté.
Toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur. En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages.
J'appelle ma maison. Oh mon amour, ma douce, ma violente, je pense à toi comme on se jette à l'eau. Et le silence au fond de mon cœur plante ton absence comme un couteau. Les mots d'adieu nous déchirent les yeux. Et les mouchoirs n'y peuvent rien changer. On les agite au long des longs trains bleus. Et l'on sourit quand on voudrait hurler. À part toi et un petit garçon blond. À part toi. Rien au monde que j'appelle ma maison. Les mots d'amour sont comme des cerises. Ils laissent aux lèvres des traces rouges et douces. Bonbons, chevaux, châteaux, lumière grise. Et ton empreinte dans la tiédeur des mousses. Les mots de mort font le tour de la terre. À la radio, on parle de combat. Où des enfants armés de simples pierres jouent à la guerre contre de vrais soldats. À part toi, mène au monde que j'appelle ma maison. Il est 5 heures du matin dans les îles, et le soleil glisse sur les rochers. Il est midi quelque part en exil, et où que tu sois, tu dois être en beauté. À part toi et un petit garçon blond, à part toi et Néa, rien au monde que j'appelle ma maison. À part toi et un petit garçon blond, à part toi.
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, c'est dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casser les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Cher Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Ferrier. Bertrand, bonjour.
Bonjour, Benjamin.
Alors, Bertrand, tu es accompagné de Claudio. Claudio, bonjour.
Bonjour.
Et nous allons évoquer aujourd'hui une personne, une voix, que dis-je, une grande voix de la chanson française, Mama Béa Tekelsky. Je l'ai mal prononcé, bien sûr.
Alors, son problème à Mama Béa, si j'ai bien compris, c'est que longtemps, on a eu peur de mal prononcer son nom. Donc, elle est devenue Mama Béa. Tekelsky était hors jeu, parce que personne ne pouvait le prononcer. Mais apparemment, aujourd'hui, ça passe.
Bien, merci Bertrand. Alors, Bertrand, si tu es là ce soir avec Claudio, on le doit à une personne qui actuellement est en spectacle. On va lui faire un petit coucou en direct. Il s'agit de Yann Alexander. Tu étais son accompagnateur lors de la première émission que nous avions consacrée à Catherine Ribeiro.